Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire, sans Pénélope Fillon, mais avec des critiques qui, eux, ne sont pas des emplois fictifs. J'ai nommé Nelly Capriélian des Inrecuptibles, Olivia de Lamberterie, de Elle, avec Arnaud Vivian de la revue Regard, Charles et de la revue Transfuge, et avec Michel Crépu, ex-employeur donc de Pénélope, à la revue des Deux Mondes, désormais rebaptisée la revue des Deux Fiches, enfin comprenez, Fiche de lecture. On parle ce soir des livres de Christian Oster, Aurélien Bélanger, Barbara Israël, Cécile Gilbert, Zerouya Chalef. Dans le courrier de la semaine, eh bien, les fans de Daniel Pénac se révoltent, évidemment. Marie Hardy de Caen, en Normandie. Je trouve la saga Malocène délicieuse et l'écriture de Pénac joyeuse et juste. Vos critiques pourraient se montrer un peu moins dédaigneux quand il s'agit de culture populaire. Suzanne Lassave de La Ciotat reproche au masque de n'avoir rien dit de l'incroyable verve satirique d'un auteur qui, passant au crible la société de son époque avec ses mœurs et coutumes, ses rituels, ses homilies, ses statures et ses postures, n'épargne même pas sa propre production narrative. Silence radio au masque sur la dimension d'autodérision qui est une des diagonales de l'œuvre de Pénac. Françoise Delfos, qui habite Marseille, juge que trois de nos critiques n'ont rien dit, rien, strictement rien, qui pourrait constituer un commencement de preuve qu'ils avaient lu, tout simplement lu, l'ouvrage intitulé « Le cas Malocène ». En gros, elle vous soupçonne d'être des lecteurs fictifs. À propos de « Dieu, Allah, moi et les autres » de Salim Bashi, beaucoup de courriers, j'ai gardé deux, trois lettres, notamment Karim Karbache, qui est prof en Algérie, qui lui remercie Arnaud Vivian pour sa lucidité concernant les écrits sur l'Algérie. Salim Bashi est certainement un bon écrivain, mais imposture sans salle et compagnie oblige, ajoute Karim Karbache. Il s'égare en forçant le crachat sur les siens et son pays natal. À entendre les réactions des autres chroniqueurs du masque, on réalise qu'il suffit de leur jeter quelques lignes démolissant l'Algérie, le monde arabe ou l'islam pour qu'ils se pâment. En revanche, une auditrice d'origine algérienne, Mali, nous écrit « Je vis depuis 68 en France. Oui, comme Salim Bashi, je hais le pouvoir algérien et certains Algériens. Oui, je préfère la France où j'ai choisi de vivre. Oui, j'ai choisi de devenir athée, mais il m'a fallu une analyse pour me défaire du poids du religieux. Puisqu'il défend l'Algérie et qu'il est choqué que nous préférions la France, Arnaud Vivian devrait aller y vivre, qu'il demande à mon neveu. Comment il vit son homosexualité et comment je la vis ici, en le sachant en danger à chaque seconde et ne rien pouvoir pour lui. » Et pour finir, deux messages personnels. L'un, c'est pour Arnaud, c'est Augustin Chazal, qui demande donc à Arnaud s'il est vrai qu'il va, comme il l'a déclaré au Masque et la Plume, se présenter aux législatives en candidat libre, sans étiquette. Le ton était ironique, mais la remarque intéressante.
Oui, c'est vrai, je l'ai dit d'ailleurs aussi sur la chaîne parlementaire. J'ai
oui, mais là, t'es au masque et la plume, donc
officialisé. Non, mais j'ai officialisé sérieusement ma candidature dans la 18e circonscription, donc effectivement, candidat libre. Bon, déjà, comme disait Paul Valéry, quoi de mieux que de tenter une aventure, mais en plus, j'ai décidé que j'avais envie, dans ma vie, une fois, de prendre mon tour de garde citoyen, finalement, et d'être élu au Parlement pour parlementer. Je pense que, voilà, j'ai envie de parlementer avec sur la politique de mon pays, qui ne me semble pas aller très très bien par ailleurs, et pas faire partie d'un parti pour autant.
Mais est-ce qu'on peut être à la fois de la Chambre des députés et du Masque et la Plume ?
Alors Jean Jaurès a été un très grand critique littéraire alors même qu'il était député.
Si j'avais su, je l'aurais pris
au
masque.
Je vote pour toi.
L'autre message, j'en ai reçu beaucoup dans ce style, je vous le cache pas cette semaine, c'est Marion Baraille qui demande à Michel Crépu, en tant qu'ancien directeur de la revue des Deux Mondes, de glisser quelques mots en faveur d'une jeune femme, donc elle, diplômée et en quête d'un travail peu contraignant et bien rémunéré. Je me sens en effet tout à fait apte nous dit Marion Baraille, à produire des notes de lecture au rythme de deux par an pour un tarif assez généreux. Je reconnais ne pas pouvoir prétendre à un paiement de 50 000 euros pour chacune. Et elle est prête, donc Marion Baraille, à démarrer à 15 000. Donc si tu peux l'aider.
À la NRF, les piges, c'est un quignon de pain et un verre d'eau.
C'est mieux qu'au masque à la plume. Juste une question, elles étaient bonnes les deux notes de lecture de...
Passons.
Non ? Tu veux pas répondre ? Non, silence. Tu sais que tu es invité au masque, tu n'es pas auditionné. Hein.
Ça me fait du bien de revenir à la maison.
Ils étaient sympas les juges.
Non, ouais, très.
Oui, plus sympa que moi. Le Grand Paris chez Gallimard, le troisième et gros roman, 500 pages, d'Aurélien Bélanger, auteur de 36 ans, qui se réclame volontiers de Balzac et qui s'est fait connaître en 2012 avec La théorie de l'information, qui était un portrait romancé, mais assez véridique, de Xavier Niel, suivi de L'aménagement du territoire, c'était en 2014. Et là, le héros de ce Grand Paris, il s'appelle Alexandre Bellegrand. Il est urbaniste, il a grandi à l'ombre des tours de la Défense, il a fait une école de commerce. Il est entré au service de Sarkozy, alias Le Prince, alors en route vers l'Élysée. Et Bellegrand fera d'ailleurs partie, le 6 mai 2007, des rares invités du Fouquet's. Avant de connaître la disgrâce, il aura écrit des discours du prince, dont le fameux, celui sur l'avenir architectural du Grand Paris. Il a été formé par un anthropologue assez bizarre, à la fois gauchiste, mystique. Bref, Bellegrand...
Situationniste.
Situationniste. C'est une sorte de démiurge qui veut faire notamment du 9-3 le centre géographique, on peut même dire islamique, de la capitale. Michel Crépu, qu'est-ce qu'on en pense à la NRF, hein, à la NRF?
Je trouve le projet de ce livre extrêmement passionnant, parce qu'il y a peu de... Il y a très peu, enfin, autant que je sache, je n'ai pas fait l'enquête, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de livres qui se donnent Paris comme objet, non pas objet romanesque, mais objet littéraire, objet d'investigation littéraire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce qui m'a laissé en
revanche... On avait eu, il y a deux ans, le livre assez épatant de Laurence Cossé sur les tours.
Oui, La Grande Arche.
Sur La Grande Arche.
La Grande Arche. Personnellement, je trouve que le livre de Laurence Cossé est meilleur, littérairement parlant, que le livre de Bellamy.
Bellamy, tu veux dire Bélanger?
Bélanger, pardon.
Oui. Non, mais bon.
Ah, il y a encore chez le juge, on dit Bellamy. Ah oui, quand même, ça parle, hein, ça, oui.
Non, parce que c'est une sorte de Bellamy.
On peut relire Bellamy aujourd'hui, et ça marche très bien.
C'est un lapsus.
Sur les
qui a
journaux,
beaucoup de
ça
sens,
dit tout, hein, déjà.
Tout va bien, Michel. Hein.
Oui, non, tout va très bien, c'est délicieux.
On t'aime. Hein.
La saga politique qui accompagne ce livre est très... Je pense qu'il ne manque pas une épaulette, il manque pas un bouton.
C'est très daté et très précis. Hein.
C'est très précis et très daté. Ça ne m'a pas véritablement passionné parce qu'il m'a semblé que ça manquait de véritable création romanesque. Enfin, je ne sais pas, c'est très curieux. C'est pages, des pages et des pages on a l'impression de lire des rapports d'urbanistes. Mais en même temps, pourquoi pas? Je suis pas hostile à ça. Ça m'intéresse énormément. L'urbanisme est un sujet, enfin, une affaire littéraire absolument essentiel. J'ai lu récemment des études de topographie immobilière des années 30, absolument extraordinaires, des types qui s'occupaient qui prenaient une rue de Paris et qui racontaient comment cette rue s'était construite.
C'est ce que faisait beaucoup Éric Hazan dans son dernier livre, justement. Il prenait chaque rue par strate et en racontant comment...
C'est absolument passionnant.
Bon, Nelly.
Bah oui, c'est d'autant plus passionnant qu'en plus, vivant à Paris, on n'est pas vraiment au courant de l'histoire.
De ce projet-là, on était au courant quand même.
Oui, ce projet-là, on était au courant parce que justement, je trouve, moi, ce que j'aime chez Bélanger, c'est qu'il n'a pas peur de faire du romanesque avec l'histoire récente, c'est-à-dire les 10 ou 20 dernières années. Et en fait, il fait appel aussi à notre mémoire collective. C'est-à-dire, moi, j'avais oublié quand il parle d'une émission d'Ardisson. Où Ardisson invite...
Qu'on va retrouver chez Cécile Gilbert.
Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup, d'ailleurs, de ponts communs, même s'il ne parle pas du tout de la même chose, Cécile Gilbert et lui. Il y a aussi un rapport avec l'histoire, c'est-à-dire que la grande histoire de Paris, l'histoire de France, qui se retrouve toujours en palimpseste, dont je ne sais plus ce que c'est qu'un palimpseste, si c'est derrière quelque chose ou devant.
C'est une addition.
C'est une addition. Bon,
c'est alors, dessous, non, c'est pas, en général.
C'est dessous, c'est dessous ou dessus?
Non, c'est un parchemin sur lequel on arrive.
Réécrit,
et qui s'est effacé. Oui. Voilà.
Bon, enfin, c'était très exactement ce que je voulais dire.
Avançons, mes enfants.
Oui.
Hein.
Non, j'ai adoré, comme disait Michel, cet urbanisme traité de façon complètement folle. C'est-à-dire qu'il y a justement son mentor dont tu parlais, qui est une espèce de... quasiment, on a l'impression qu'on est tout le temps dans une forme d'alchimie. Il a un côté complètement sorcier. Il a un côté occulte. Comme ça, il y a toujours une face occulte de la politique. Je trouve sa vision... on oublie tout ça, mais je trouve cette façon dans le roman de faire une espèce de synthèse en nous donnant une perspective et du sens à tous les événements, en liant tous les événements politiques de ces dernières années qui se sont passées. Par exemple, quand il parle de Sarkozy, qui a au fond, et qui s'appelle donc le prince ou le temps, Sarkozy n'est jamais nommé.
Non, mais comme les dates correspondent à Sarkozy, c'est.
Quand finalement, il surfe sur l'islamophobie, et à la fois, enfin, il agite l'islam comme un grand, comme le diable. Et à la fois, c'est lui quand même qui actionne le plan du Grand Paris, qui va être de relier toutes les banlieues ensemble. Donc, qui est quand même un truc où, enfin, la banlieue va pouvoir
En faisant de la Seine-Saint-Denis le centre névralgique.
Voilà. En plus, je trouve toute sa vision du 93 est absolument passionnante. Et alors, moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est peut-être la fin, ou je ne sais pas si on la raconte.
Non, on ne va pas la raconter, bon, justement. Le but, c'est qu'on ne la raconte pas. Olivia.
Tout est intéressant dans ce livre, sauf le livre. Écoutez, moi j'adore quand tu le racontes, ça me donne presque envie de le relire. Je l'avais gardé comme le dernier de la série en me disant vraiment là je vais me régaler. J'étais dans l'avion, j'avais 7 heures devant moi et je trouve que c'est extrêmement ennuyeux. En même temps, je me sentais ridicule, je me disais c'est post-moderne, je me sentais une femme préhistorique qui ne comprenait rien au livre, ou plutôt je le comprenais, mais je trouve qu'il y a un vrai problème de narration et c'est assez symptomatique de notre époque qui produit pas mal de grands écrivains, mais pas tellement de grands romanciers. Et ce n'est pas un bon romancier, parce que la narration est assez plate, c'est écrit à l'imparfait, au passé simple, à la première personne uniquement. Le propos est passionnant, mais il n'est jamais raconté.
Ce qui est étrange, c'est qu'il se réclame de Balzac. Hein.
Oui, mais ça n'embraye jamais. Balzac, tu passes jamais la première. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même assez fastidieux. Le portrait de Sarkozy, j'ai trouvé qu'il n'était pas réussi. Oh, il manque à ce livre la fièvre. La fièvre. Je trouve que c'est intelligent, tout est bien. J'adore lire des interviews d'Aurélien Bélanger, l'interview que Nelly a fait. J'ai trouvé qu'elle était passionnante. Le gars, il est de toute évidence informé, intelligent. Il a des idées, mais je trouve que la machine romanesque marche à vide. Alors après, parfois, il y a des bons passages, hein, mais je trouve que la machine romanesque n'est pas au point. Et moi, je le voyais comme une espèce de mélange entre Laurence Cossé, que j'avais adoré, où il y avait des aventures, des rebondissements, on avait des frissons, on était avec le gars qui faisait son bâtiment... Et puis un peu de Duguin, qui raconte quand même les rouages du pouvoir, je trouve, avec beaucoup de brio. Et pour moi, j'allais être un peu à une sorte comme ça de mélange entre les deux, et je suis restée vraiment sur ma faim. Un peu de la même manière, d'ailleurs, que les romans précédents.
Arnaud.
Ça fait 5 ans, je crois, Aurélien Bélanger a sorti 3 romans.
2012, 2014 et aujourd'hui.
3 gros romans qui, pour moi, sont 3 grands livres, les 3. Le premier... Là, une espèce de biopic sur Xavier Niel.
Niel, le TGV.
C'était formidable. L'aménagement du territoire, c'était un roman sur la Mayenne. Vous voyez le pitch quand même. Hein.
TGV.
Un roman sur la Mayenne, comment la Mayenne justement a servi pour le pouvoir de verrou entre l'Île-de-France et la Bretagne. Pour éviter ce que raconte le livre d'une manière absolument étourdissante, avec justement le TGV qui vient bousculer cet ordre-là, mais pendant très longtemps, la Mayenne sert de verrou.
Bon, allez, Grand Paris.
Voilà. Et donc,
Grand Paris,
et là, et donc, de nouveau, donc là, il prend comme sujet Paris. Voilà. C'est vraiment Paris dans un... Alors, on parlait de situationnisme tout à l'heure, c'est un livre psychogéographique, ce que les situs appelaient la psychogéographie, c'est-à-dire c'est ce qui relève de la géographie, mais aussi du psychisme, si on peut dire, de la géographie. Et donc, c'est passionnant de ce point de vue-là, j'ai très bien documenté, tout est évidemment absolument vrai. Et donc, pour moi, c'est un vrai romancier. Alors, contrairement à ce que tu dis, je pense que c'est un grand romancier. S'il a juste inventé un truc, mais en soi, c'est énorme d'inventer quelque chose en littérature, c'est qu'il écrit des romans comme des essais. Il écrit des romans dans la langue de l'essai.
Mais moi, j'adore qu'il écrive des essais.
Moi, je trouve ça formidable. Et plutôt que d'ailleurs que Balzac, je trouve qu'il est le seul héritier en littérature française de Jules Verne. En fait, moi, c'est à Jules Verne que je pense beaucoup plus qu'à Balzac. C'est-à-dire qu'il a ce rapport avec la technique, avec la géographie. C'est un grand écrivain géographe. Mais il y en a d'autres, d'ailleurs, dans cette génération. Philippe Vassé est un autre grand écrivain géographe qui parle aussi de psychogéographie d'une manière très différente. Mais ils ont pris ce sujet-là, qui était devenu extrêmement rare dans la littérature française, à savoir la géographie, plus même que l'histoire. Et alors, c'est le roi de la synthèse, quoi. Le type, c'est un synthétiseur, Aurélien Bélanger. C'est l'instrument invité dans les années 70 qui est sa période préférée, de toute évidence. Ce dont il parle, c'est les Trente Glorieuses, quoi. C'est le romancier des Trente Glorieuses. Comment, à une époque où la France avait toutes les raisons de se réjouir, qui était inventive, qui fabriquait le TGV, qui fabriquait le Concorde, etc., comment cette France-là en est arrivée là où elle en est aujourd'hui? Et là, Sarkozy, le portrait de Sarkozy, il est absolument magnifique.
Oui, moi, je le trouve aussi génial, le portrait.
Génial. À un moment, il y a un monologue de Sarkozy, mais on l'entend. Évidemment, c'est un monologue qu'invente Aurélien Bélanger, où il parle au héros du livre.
Avec le langage.
Et lui, il parle du sujet Grand Paris, et il lui raconte sa vie, et on entend Sarkozy. Alors, c'est facile avec Sarkozy, hein. Il nous manque déjà, je veux dire, cet escroc magnifique nous manque déjà, parce que on est arrivé au temps des escrocs minables, quoi. Mais là, c'est le temps des escrocs minables. Au moins, avant, ils étaient magnifiques.
Il est prêt pour la... Pour la prochaine élection, ouais, hein.
Et bon. Non, mais je pense que pour moi, Bélanger,
non, je vous arrête parce qu'il y a d'autres livres. Non.
C'est le seul digne héritier de Houellebecq.
Le Grand Paris chez Gallimard.
Et
c'est
aussi.
Le nouveau
mais
livre d'Aurélien Bélanger.
Il fait autre chose.
S'il vous plaît. Vous me laissez animer cette émission ou vous avez décidé de.
Si tu veux. Tu nous payes combien, là? Parce que c'est.
Les Républicains.
Une jury prise
vulgaire, Arnaud, sois pas vulgaire.
Du travail fictif.
Ça ne te ressemble pas. Les Républicains, un roman chez Grasset. De Cécile Gilbert, que l'on connaît plutôt pour ses essais sur Saint-Simon, sur Guy Debord, sur Andy Warhol. Et ici, elle se met en scène, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, un soir de novembre 2016, La fille en noir, c'est ainsi qu'elle se surnomme, sort de feu l'émission d'Ardisson, on revient à lui, 93 Faubourg Saint-Honoré, où elle a retrouvé le fameux Guillaume Fronzac, qui était un de ses camarades de Sciences Po, promo 86, qu'il faut dire, là... promo sur laquelle Aurélien de Chemin avait fait un livre. Il y avait Copé, Bec Bédé, Pujadas...
Anne Roumanoff.
Ouais. Non,
il
mais
y avait
c'est
un
formidable.
Peu de tout et n'importe quoi.
Frigide Bardot.
Oui,
ah ouais.
Montebourg.
Oui,
vous l'avez oublié.
Tout à fait.
Ouais. Bref. Et donc, Guillaume Fronzac et La fille en noir. Et contrairement donc à La fille en noir, qui a préféré la littérature, Fronzac, il a fait l'ENA. Il a suivi le cursus exemplaire, voilà, de ceux qui réussissent en politique, avec passage obligé par la banque d'affaires. Bref, les deux vont passer la soirée ensemble de 17h à minuit, traversant à pied le Paris de la rive droite, avec halte dans le bar d'un grand hôtel. Moi, ça m'a fait penser à ce que Gide appelait des sottis. Notamment à Palude. Là, il est question des destins évidemment opposés de la littérature et de la politique, mais aussi des dîners du siècle, S majuscule et des Gracques, de Balladur, de Villepin, avec en prime un autoportrait que j'ai trouvé assez convaincant de Cécile Gilbert, là je la cite, « Pas foutu d'avoir un site, de tenir un blog, d'ouvrir une page Facebook, un compte Twitter ou Instagram, incapable de gérer sa boutique narcissique, son épicerie égotiste. » Et puis avec des détails, mais je ne sais pas s'ils sont tous vrais. Notamment, j'ai appris dans ce livre que Hollande, comme Sarkozy, on revient à Sarkozy, étaient tous les deux constamment maquillés. Ouais. Ils ont une maquilleuse qui les suivait, et qui les suit pour Hollande, partout, et qui les retape, qui les ravale à longueur de journée. Ouais. Si c'est vrai, c'est un scoop.
Payé comme le coiffeur, là, à 10 000 euros, c'est ça?
Arnaud?
Oui. Oui. C'est un livre très très bien.
L'idée, c'est que je te pose une question, oui. Tu dis ce que tu penses du livre, je reprends la parole, je la passe à un autre, ah oui. C'est le système.
Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis 16 ans, finalement.
Non, depuis 55.
Non, okay. Oui, d'accord. Non, il y a quelque chose que... Alors, voilà, novembre 2016, alors ça, on sait que ce n'est pas vrai, parce que cette émission d'Ardisson n'existe plus depuis 10 ans.
Elle avait disparu, oui.
Donc, en fait, elle a eu lieu en 96, au moment où Ariane Chemin a publié son livre La Promo. Mais elle a vraiment eu lieu, cette émission. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir transposé ça en novembre 2016, parce qu'il y a un côté œuf pondu du jour, œuf frais, qui fait qu'on est en plein dedans. Il y a un côté...
C'est entre... Surtout avec le titre.
Il y a un côté BFM TV, un peu, vous voyez, les débats sur BFM TV avec les éditocrates, etc. Il y a un côté comme ça, très réussi, qui parle finalement du désarroi politique général. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est évidemment qui est ce Guillaume Fronsac. Parce que je pense que tout est vrai. Alors
Non, il n'existe pas. Non.
Ah si.
Tu penses qu'il existe ?
Ah oui, bien sûr.
Ah, c'est qui ?
Nicolas Bazire.
À Nicolas Bazire, j'aurais pas pensé à ça.
Nicolas Bazire, ouais. Parce que tout correspond, il a été avec Balladur, mais il y a un portrait très précis de cet homme. Alors je crois, Nicolas Bazire n'a pas écrit de livre sur Clausewitz, à ma connaissance. Enfin, il aurait pu en écrire un, vu son profil.
Là, Fronsac, il a écrit un livre sur Machiavel.
Ah oui, sur Machiavel, pardon, et c'est sur...
Tu confonds.
Oui, non, mais voilà, mais à ma connaissance, il n'a pas écrit... Il a écrit, en revanche, un livre, par ailleurs, Nicolas Bazire, sur son passage à Matignon. Et donc, le portrait correspond tout à fait à Nicolas Bazire, et c'est intéressant. Donc, on a un écrivain, Cécile Guibert, qui fait effectivement son autoportrait de femme de 50 ans, qui a 50 ans, qui, effectivement, a de quoi se réjouir, puisque un type qu'elle a galoché... un soir de soirée à Sciences Po 30 ans auparavant, est toujours amoureux d'elle. Et le type, donc, qui est un mec de droite, qui est très haut placé dans le pouvoir, et qui a travaillé donc avec Balladur, qui fait le dîner du siècle, etc., qui a pantouflé à la banque Rothschild. Enfin bon, tout ça est très, très renseigné sur cet homme. Et elle, donc, elle habite au Faubourg Saint-Antoine, qui est le foyer révolutionnaire de Paris lui-même, quoi. Donc, elle est pas du côté de l'élite. Elle vit avec un homme photographe, c'est des intermittents.
Elle a fait Sciences Po.
C'est une intellectuelle précaire. C'est ce qu'on appelle une intellectuelle précaire. Et elle va passer une magnifique soirée. Elle va passer une magnifique soirée à l'hôtel Regina, au bar de l'hôtel Regina. Après, elle va dîner chez...
Beaucoup marché.
Ouais. Après, elle va dîner dans un des plus grands restaurants. Donc, tout ça se passe autour de la Concorde.
Rue de Rivoli.
Avec l'idée de que la tête du roi a été coupée là. C'est omniprésent dans leurs deux têtes. C'est un livre magnifique, politique, très compliqué à analyser vraiment. Qu'est-ce que veut nous raconter Cécile Guibert quand elle rentre se coucher pendant que son mari continue à faire la fête ? Ça.
Olivia.
Ah, j'ai trouvé ça très réussi parce que. La trame romanesque que tu viens de dépeindre, elle est minimale, mais elle sert magnifiquement d'architecture au livre. Moi, est-ce qu'ils vont se réembrasser ou pas ? Je m'en fiche.
Quand même.
Mais je trouve que c'est le prétexte à une peinture du milieu politique dans lequel le service de l'État a été quand même remplacé par un appétit de pouvoir personnel qui, je trouve, est génial. Parce qu'elle le fait... de manière, en tous les cas, ça sonne très très juste, et avec une armée de petits détails très très drôles. Elle est piquante, elle est pétillante, et chaque page révèle un Arnaud Montebourg qui rate l'ENA et qui pleure comme un veau. C'est deux lignes, mais on le voit en train de pleurnicher. D'ailleurs, je ne sais plus si elle dit pleurer ou pleurnicher. Elle explique très très bien comment... le pouvoir est devenu cette armée de Nicolas Bazire ou d'Aquilino Morel, qui sont tous tombés dans le panneau.
Oui, mais elle raconte, je trouve aussi, surtout ce que c'est que de faire le choix, comme elle l'a fait, alors, de la littérature.
Absolument.
Et de Saint-Simon plutôt que de...
Oui. Mais le portrait qui est fait d'elle est très, très... En tous les cas, il sonne très honnête et sincère. Et c'est aussi pour ça que le livre est bien. Mais ce qui est formidable aussi, c'est quand même la peinture de ce bûcher des vaniteux, on peut dire. Ouais. Une espèce de marigot où vous avez Fuchs, le grand communicant, qui a des cheveux qui ont été mis par Cahuzac. À côté, vous avez Pujadas, qui a les talonnettes de la même marque que Sarkozy. À côté, vous avez Balladur, qui est... étripé.
Et les maquilleuses, toute la
et
journée.
Et les maquilleuses, mais on comprend pourquoi.
Et à la main qui dit... fait la bise à Martine Aubry, il y a une scène absolument fugitive, magnifique, comme ça, où ils croisent Martine Aubry et à la main, c'est magnifique.
Mais on comprend pourquoi ils sont maquillés tout le temps. Parce que c'est la République de l'image et qu'ils passent leur temps à aller de télé en télé. Elles brocardent aussi très bien.
C'est une aristocratie, ils sont maquillés comme l'étaient les aristocrates autrefois.
La République des tweets, des petites phrases qui sont dégueulasses.
Le général de Gaulle, il ne se maquillait pas toute la journée, comme dirait l'autre.
Oui, c'est vrai, mais bon, comme dirait l'autre. Bon. Non, c'est très, très réussi, très brillant.
Quel autre
Sur un dispositif qui est un dispositif, j'ai trouvé assez en même temps les
très malin.
Les brefs romans du 18e, où on voyait comme ça des dialogues se prolonger, notamment en marchant jusqu'au bout de la nuit.
Oui, moi, ça m'a rappelé aussi les romans épistolaires, les liaisons dangereuses.
Absolument.
Voilà, même si là, c'est pas le même sujet. Et c'est vrai que Cécile Gilbert, c'est une fan, elle adore le siècle des Lumières. Non, moi, je me demandais comment elle allait réussir son coup en faisant un roman, alors qu'on sait qu'elle est déjà, même si elle en a déjà écrit un, qu'elle est plutôt une brillante essayiste. Et là, je trouve qu'elle a réussi un roman pamphlétaire brillant. Je trouve que le dispositif de confronter deux personnes radicalement opposées, qui ont quand même chacun flirté, d'abord elles ont flirté ensemble, mais surtout il y en a un, comment il s'appelle, Fronsac,
Guillaume Fronsac,
qui lui a essayé quand même de commettre un livre, elle qui à un moment donné, après Sciences Po, a quand même rédigé les discours d'un politique.
Oui.
Donc chacun a un peu empiété sur le domaine de l'autre, mais à un moment donné, le choix, je suis d'accord avec toi, moi je trouve qu'il y a un des trucs les plus magnifiques du livre, c'est comment elle a choisi carrément une autre vie qui est l'amour, la paresse, la contemplation, l'écriture. Même du côté de l'écriture, elle publie pas un roman tous les ans. Elle essaie pas de, voilà, elle surfe pas sur les sujets à la mode. Et j'adore cette façon de. Et elle est amoureuse de son mari. Lui, bon, il n'est plus trop sûr avec sa femme. Elle a refusé d'avoir des enfants. Lui en a fait trois. Enfin, il y a aussi une façon de vivre qui se dessine, qui au fond, pour répondre à la question d'Olivia, je trouve un peu le message du livre, d'après moi, qui est un peu faisons notre évolution déjà en tant qu'individu, puisqu'on est coincé dans une société où d'un côté on a en politique une forme de médiocrité liée au spectacle qui est absolument partout, que ce soit sur Instagram ou dans la vie politique, le maquillage, cher Jérôme, encore une fois, et aussi des gens qui ne veulent que le pouvoir. Et à un moment donné, elle pose la question, mais le pouvoir, pourquoi ? Enfin, finalement, à part leur ego, j'adore aussi quand elle montre
l'argent, quand même, hein.
les gracques, le dîner du siècle, où se côtoient la gauche, la droite, où chacun, les hommes d'affaires, les financiers, les banquiers, où chacun prenne finalement, là se font les décisions pour nous. Et finalement, tout ça surfe aussi sur la phrase « il n'y a plus de clivage, la droite et la gauche n'existent plus ». Donc c'est ça qui, à mon sens, a complètement tué la politique et ouvre la porte à tous les dangers. Et de l'autre côté, il y a vers la fin une espèce d'acte terrorisme, en fait. Bon, je ne dévoile pas si c'est vrai ou pas. Mais en fait, quand on est coincé entre la terreur et la chute du politique et des utopies et de la croyance dans l'histoire, qu'est-ce qui reste? Et pour moi, la fin, c'est...
Alors,
il reste l'amour,
Michel,
il reste la littérature.
Pardon, j'accélère parce que sinon, nous allons parler de trois livres ce soir, je le sens encore.
Mais c'est un des plus passionnants,
Michel,
ce soir.
Oui, mais il n'empêche que...
Je crois qu'elle est très cohérente dans son travail d'écrivain. Si on repense à ses livres précédents, Saint-Simon, Debord, Andy Warhol, au fond, je crois que la seule chose qui l'intéresse véritablement, c'est le nihilisme. Et là, dans ce livre, à travers un tableau de la scène politique, à travers le tableau d'une génération, c'est le nihilisme qu'elle essaye de décrypter. Voilà.
Une des rares personnes qui arrive à critiquer l'époque sans être réac.
Les Républicains, c'est chez Grasset. D'ailleurs, je trouve publié un livre qui s'appelle Les Républicains à 2 mois des présidentielles. C'est assez
compté.
Fort. Vous ne pouvez pas prévoir. Hein. C'est donc de Cécile Gilbert, Saint-Salopard, le roman, là pour le coup à peine une fiction, que consacre chez Flammarion Barbara Israël à Maurice Sachs, écrivain juif et homosexuel. Ami de Gilles, Cocteau, Coco Chanel, devenu collabo pendant la dernière guerre, et dont le zèle et les trafics d'ailleurs de marché noir ont fini par même lasser la Gestapo, qu'il a déporté en 43 dans un camp. Il a été tué par un SS, c'était en avril 45, il avait 38 ans, et on lui doit notamment Le Sabbat, souvenir d'une jeunesse orageuse, tableau des mœurs de ce temps, et des phrases comme « Les tricheurs ne connaissent pas la vraie joie de gagner » ou « On ne trahit bien que ceux que l'on aime ». Roman épistolaire, puisque tu parlais de roman épistolaire, Nelly, où Barbara Israël a imaginé les lettres, donc évidemment totalement apocryphes, qu'il aurait pu adresser à ses parents, à Jouando, à Mac Jacob, ou encore à Violette Leduc. Michel ?
J'ai trouvé ça époustouflant. Brillantissime. J'ai énormément aimé ce livre. Je trouve la première phrase extraordinaire. Malheureusement, je n'ai pas exactement de mémoire. Je crois que c'est « les temps ne changent pas, ils changent seulement de vêtements ». Enfin, c'est remarquable. C'est vif, c'est intelligent, c'est sinueux, dansant. Je trouve ce livre très étonnant. Je ne connaissais pas du tout cette fille. Et moi, je trouve ça formidable.
Voilà. Arnaud ?
Apparemment, je suis le seul de cet avis.
Oui, alors, moi, oui. Là, parce que là, moi, j'ai eu le sentiment, quand même, le sentiment qu'on a devant un meuble suédois à monter soi-même, vous voyez, dans lequel il manque le mode d'emploi, et en plus, il manque quatre vis, quoi. Donc, j'étais là avec ces pièces détachées que sont ces lettres.
Est-ce qu'on a vraiment envie de l'acheter ? Je parle du meuble.
Ah ben le meuble, si vous voulez voir un tas de cartons et de planches dont vous voyez vraiment pas comment elles vont s'organiser, parce que moi je me souviens ado j'ai lu Le Sabbat, voilà, donc j'ai un vague souvenir comme ça, Saxe, mais c'est pas j'ai jamais fétichisé vraiment ce personnage très bizarre, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. J'aime bien bizarre.
Enfin, mais en même temps, il y a un très bel essai de Thomas Clair sur Maurice Saxe, et qui. Là, j'ai rien compris. En plus, je veux dire, écrire à la place de Gide, de Cocteau, enfin, je veux dire, faut y aller quand même. Hein.
Ouais.
Ça n'a aucun sens. Toutes les lettres sont écrites pareil. C'est une espèce de. Aussi, quand même, d'une manière de se foutre de la gueule du populo, quoi. J'écris comme Cocteau, à la place de Cocteau, à la place de Gide.
Bah, le problème, c'est qu'elle écrit pas comme Cocteau. C'est-à-dire, je trouve que c'est un peu le langage dans, langage dans toutes les lettres qui est apparemment le sien. Non, moi, un truc que j'ai appris, mais peut-être c'est dans les autres textes sur Maurice Saxe, qui est qu'il avait vécu où Modiano ensuite a grandi. Au 15 quai de
Modiano
Conti.
Modiano l'a très souvent cité d'ailleurs dans ses livres.
Il l'a cité, oui. Bah, oui, tu vois, j'ai pas du tout fait attention à ça.
D'ailleurs, c'est un personnage très modianesque.
Qui est très modianesque, oui, bien sûr. Et je savais qu'il s'en était inspiré pour certains textes, qu'il avait laissé sa bibliothèque là, et que le petit Modiano a grandi en lisant les livres qu'avait laissé Maurice Saxe. Non, moi, j'aime pas le principe, déjà. Je trouve que ça me gêne qu'on fasse parler des gens, a fortiori des grands auteurs, ou des grandes créatrices de mode comme Chanel, en leur faisant tenir des propos qu'ils n'ont pas tenus. Parce que finalement, ça, on ne sait pas. Alors, je sais bien que c'est un roman, mais ça me gêne beaucoup. Et puis, par ailleurs, je pense qu'elle aurait dû faire alors une biographie ou un roman carrément. Je trouve ce biais de lettres, il y a un truc qui ne...
Il y en a beaucoup, hein, des biographies de Saxe. Hein. Mais cela dit, c'est vrai que sur une période, sur une telle période et sur un personnage aussi ambigu, je trouve que tout d'un coup, le côté apocryphe des lettres ajoute au trouble, je trouve, du personnage, et c'est pas une bonne chose forcément.
Non, c'est pas une bonne chose, et puis on sait pas s'il pensait vraiment ça, alors on sait rien.
Olivia.
Ah, moi, j'ai trouvé ça complètement raté, parce que ça me semble mission impossible, de toute façon, comme projet. Parce que il y a le projet, effectivement, de faire parler Cocteau, Chanel. Alors, moi, celle que je connais un petit peu, c'est Chanel, dont j'ai lu pas mal de lettres, mais jamais Chanel n'aurait d'abord parlé comme ça. Elle parle comme une shampouineuse. Et jamais elle n'aurait tenu de tels propos. C'est totalement improbable. Ou finalement, elle parle comme une petite fripouille, en connivence avec Maurice Saxe, qui lui-même lui parle comme Ardisson. Écoutez, Ardisson est l'invité surprise de ce soir. Parce que l'autre écueil, c'est que lui, il est censé parler du royaume des morts, mais aujourd'hui. Oui. Et donc, quand il se définit, il dit « moi, juif honteux, ou juif même pas honteux, qui devient agent de la Gestapo, c'est un pitch peu glorieux ». Mais un pitch peu glorieux, mais mon Dieu, mais comment on peut parler comme ça? C'est pas possible. Et les propos qu'il tient à Gabrielle Chanel sont aussi... C'est pas possible, on peut pas dire à vous qui avez vendu les Vertemer pour récupérer les parfums Chanel. C'est pas possible. Pour moi, c'est ordurier, c'est un projet littéraire qui ne se tient pas.
Et puis qui n'est même pas crédible.
Qui n'est pas crédible. Donc ça ressemble à une espèce de téléfilm en costume, avec des gens en contre-emploi. On se dit, ça serait Patrick Timsit qui aurait joué Maurice Saxe, Muriel Robin qui aurait joué Chanel. Enfin, vous voyez, n'importe quoi, quoi.
Oui, une folie à l'œuvre, en fait. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une espèce de folie dans le projet.
Oui, mais l'éditeur aurait dû lui dire « Arrête, c'est pas possible, on peut pas faire ça !»
Oui, oui, il y a un côté, effectivement, c'est très étrange comme livre, hein, c'est ce qu'on puisse dire.
C'est bien ce que je pensais.
Il y a un autre truc qui est très déplaisant, je trouve, c'est que pour essayer de résoudre le mystère de Maurice Sachs, elle ne tire que sur une seule ficelle, qui est celle de la mère. Donc, en fait, s'il est un salaud, c'est parce que sa mère était elle-même une très, très mauvaise mère. Ouais. Et là, on retombe dans une espèce de convention sociale qui fait que tous les criminels, les pédophiles et les assassins, c'est la faute de leur mauvaise mère. Et ça, ça m'énerve aussi.
C'est chez Flammarion et c'est Saint Salopard de Barbara Israël, le livre que vous conseille donc Michel. La vie automatique.
C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre.
Non, mais c'est pas grave, Michel. Hein.
Non, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Non, j'aime beaucoup.
La vie automatique. Aux éditions de l'Olivier, c'est le nouveau livre de Christian Oster, l'auteur de Mon grand appartement d'une femme de ménage. Tout commence par un incendie. Jean, qui est le héros et le narrateur qui habite à la campagne, eh bien, il oublie une casserole sur le feu et un torchon sur la casserole. Et le torchon brûle au sens propre et la maison s'embrase. Tranquille, peinard et tout, Jean n'appelle pas les pompiers, il fait sa valise, il prend le train pour Paris et il s'installe à l'hôtel. La suite, eh ben, elle est assez absurde, mais elle est racontée avec un sérieux imperturbable par Oster. Jean, qui est comédien de série B, va honorer quelques tournages, il va se réfugier chez une vieille actrice et partir pour le Japon avec le fils un peu dérangé, il faut dire, de cette dernière, qui veut absolument aller voir des bambous là-bas. Bon, c'est du Oster pur jus, que moi j'ai trouvé à la fois très triste et très drôle, les deux à la fois, ce qui n'est pas incompatible. Qu'en pensez-vous, Olivia ?
J'adore le thème du livre. Déserter sa propre existence, je trouve que c'est vraiment très beau et symptomatique de notre époque. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs livres
sur ce même thème.
Il y a le livre de Gaël Obiegli qui s'appelle N'être personne,
sublime,
qui est très beau.
Très beau.
Il y a le livre de Michel Manière chez POL qui s'appelle Journal d'un silence.
Le livre de Jérôme Leroy aussi.
Ça, je ne l'ai pas lu.
Absolument.
Mais,
Portugal.
Ouais.
Je trouve que c'est une idée.
Il dit, je t'arrête deux secondes, il dit, Jean, j'étais poussé vers la 16, vers l'effacement, vers une volonté de m'amenuiser, de m'acheminer vers une maigreur.
J'adore cette idée, la tentation comme ça de disparaître à soi-même. Et j'adore l'idée et le fait que le livre soit raconté sans aucune psychologie et que c'est raconté de manière très très sérieuse, alors qu'en fait c'est très loufoque et complètement absurde. Après, je trouve que le livre ne tient pas jusqu'au bout. Je dois dire que aller voir les bambous au Japon, moi ça m'a un tout petit peu ennuyée, parce que cet homme est finalement tellement étranger au monde. Alors, en miroir, il y a un portrait du monde qui est assez intéressant.
Il suit le fils.
Oui, il suit le fils, mais tout ça se fait de manière à la fois complètement naturelle et complètement absurde. Et puis à un moment, je trouve qu'on le perd un peu en route et qu'on s'en fiche. Il pourrait être pendu en place publique, honnêtement. Voilà, ça nous ferait pas grand-chose. Bah, je trouve qu'il est lui-même prisonnier.
Gentil,
hein. Non, je suis pas gentille, non. Il est prisonnier lui-même de son. Moi justement, je trouve que l'empathie s'épuise et que l'exercice de style tourne un petit peu à vide au bout d'un moment. Mais c'est très bien écrit, c'est un vrai projet, c'est un vrai écrivain. Est-ce que c'est un vrai romancier ? Dans ce livre-là, j'en suis pas tout à fait convaincue.
Je suis assez d'accord avec Olivia, en fait. C'est-à-dire que moi, j'adore l'écriture d'Auster, j'adore cette écriture-là, surtout les premières pages sont quand même... quand il laisse brûler ses courgettes. Enfin, c'est-à-dire que chaque phrase, chaque page, chaque chapitre, à chaque fois, déconnecte toutes les idées reçues, va à l'encontre de toutes les actions qu'un héros devrait prendre, en fait. Mais à chaque fois, et chaque ton, chute de phrase, c'est juste hilarant, parce que c'est toujours le contraire de ce à quoi on s'attendait, et c'est toujours quasiment en contradiction de ton avec le début de la phrase. Donc je pense que c'est vraiment dans son écriture qui crée comme ça un humour, une du burlesque, une loufoquerie. Bon. Alors je me suis vraiment amusée, j'ai admiré son style pendant les trois quarts du livre, sauf qu'à un moment donné, ben, je suis d'accord avec Olivia, je me suis dit, so what ? Enfin, pourquoi tout ça ? Enfin, on comprend assez vite, ça va être une dérive un peu... ça m'a rappelé le film de Barbara Loden, Vanda, avec une femme qui cesse comme ça.
À propos de film, il y a toute une série de films inventés par lui, des réalisateurs
oui, ça,
qui n'ont jamais existé.
Le tournage est génial. Des pièces aussi qui n'existent pas, des comédiens, des acteurs. Et le nom, il a un nom
très réussi. Un mec qui dit, je parle de gens qui adorent son métier.
Sauf les acteurs,
ça c'est formidable quand même. Michel.
Alors c'est curieux parce que je suis assez d'accord avec vous. On admire le système, on admire la machine littéraire, on admire le savoir-faire extraordinaire de Oster qui est vraiment une sorte d'horloger de la causalité, de l'enchaînement de ce thème de l'étrangeté. Et en même temps, c'est pas intéressant.
Oh, j'ai adoré ce livre. Arnaud,
je suis comme toi, j'ai adoré ce livre.
Moi, j'ai adoré ce livre.
Moi aussi, j'ai adoré ce livre. Non, c'est vrai. Non,
mais
c'est
on va vous laisser, hein.
Jusqu'au
on
bout,
vous laisse.
Ouais, jusqu'au bout, j'ai trouvé ça formidable. C'est, alors, c'est vrai que tu as raison, c'est le thème de moi, ce que j'appelle l'évaporation. Quoi. Mm-hmm. Et il y a eu un roman de Thomas Reverdy qui s'appelait Les Évaporés. C'est quelque chose qui arrive assez souvent au Japon, où les gens changent de vie. Mm-hmm. Et ils disparaissent comme ça, soudainement. Oui, ils changent de vie.
Il y avait
un très beau livre de...
Aller vers le blanc,
très beau, ouais, très beau roman de Pascal Quignard, à mon avis, son plus beau, qui s'appelait Villa Amalia, où une femme, comme ça, décidée, magnifique livre, magnifique roman. Et pour moi, le livre de Christian Auster, il est du même niveau que Villa Amalia dans la force de ce qu'il raconte. Et je trouve, alors, ce que je trouve très fort dans le livre, c'est que il y a un côté Modiano. C'est-à-dire que la vieille actrice, les pièces de théâtre inventées, le rôle de second rôle au cinéma, tout ça, c'est du Modiano, mais pour dire exactement l'inverse de Modiano, c'est quelqu'un qui n'a plus de passé et il y a une soif d'avenir dans ce livre. C'est ça qui est très beau. C'est que le livre parle d'une soif d'avenir absolue.
C'est-à-dire que
on croit que le mec va mourir, on pense qu'il va se tirer une balle, tout ça, que tout ça l'ennuie. Non, au contraire, il est dans une soif d'avenir, de tout faire. La manière dont le livre décolle littéralement avec le départ au Japon, c'est juste mais magnifique. On s'y attend pas du tout. On est là et poum, le livre, vraiment, il décolle, tout simplement. Et on croit que ça va durer toute la fin du livre. Non, pas du tout. Ça dure 2 pages, il revient à Paris. Tout ça, mais est juste, comment dire. C'est du vrai bonheur. Je trouve ce livre, il a quelque chose. Alors qu'on pourrait le prendre comme un livre dépressif, c'est tout le contraire. C'est un livre qui dit allez, on y va, on fonce, on fait n'importe quoi, on va au Japon.
De l'homme qui vit avec la vieille actrice, par exemple, ce sorte de majordome. Alors là, pour le coup, très modianesque.
Oui.
Non, c'est un livre très drôle. Eh ben, on vous le conseille, en tout cas, Arnaud et moi, avec passion, avec enthousiasme.
Je note.
Tu notes, Michel. oui. La vie automatique, donc, c'est Christian Auster, et c'est aux éditions de l'Olivier, une poignée de minutes pour nous dire ce que vous pensez de Douleur, de Zeruya Shalev, qui est cet écrivain israélienne. Le livre est traduit chez Gallimard de l'hébreu par Laurence Sandrovitch, romancière qui, je le rappelle, a été blessée en 2004 dans un attentat suicide, qui a fait d'ailleurs 10 victimes. Et là, son héroïne, pourquoi je le rappelle, c'est son héroïne Iris, qui est une directrice d'école, a elle aussi été blessée dans un attentat. Elle en a gardé d'ailleurs des douleurs persistantes, des problèmes avec son mari, ses enfants. Et sa vie va basculer le jour où elle consulte un médecin, Ethan, qui fut son premier amour. Je ne vais pas raconter la suite, mais on comprend que voilà, il y a des flagrations réelles et puis aussi parfois amoureux, surtout dans le passé. Arnaud,
j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était. Alors, ça se lit exactement comme une série télévisée. Hein. C'est chaque chapitre, c'est un épisode. Il y a des rebondissements permanents. Mais en fait, ce qu'on sent surtout, d'abord, c'est que c'est un livre très drôle, en dépit de ce qu'il raconte. C'est un livre où il y a un humour souterrain qui fait qu'on a tout le temps envie de rigoler, alors que rien n'est drôle. Mais on a tout le temps envie de se marrer. C'est un livre vraiment. Alors. Qui s'appelle Douleur et qui parle vraiment de ça, c'est que donc elle retrouve cet ancien amant qui est un spécialiste de l'antidouleur. Et quand elle va mal, il lui donne du Doliprane. Donc là, il y a une espèce de voilà de comment dire qu'elle a été victime d'un attentat. Je le savais même pas en lisant le livre. Je l'apprends. Donc elle se décrit elle-même dans cette situation, mais c'est pas cette douleur physique qui lui fait mal. C'est la douleur psychique du fait que ce type l'a jetée quand elle avait 20 ans et qu'elle était folle amoureuse de lui.
En plus, elle aime pas vraiment son mari. Hein.
Voilà. Et en même temps, c'est aussi un grand livre sur Israël, ce pays qui est le plus grand pays producteur des prothèses les plus sophistiquées, parce qu'ils sont, y a tellement de gens qui perdent une jambe, un bras, qui sont devenus les grands spécialistes de la prothèse. C'est ce pays-là dont elle parle, Israël. Et je trouve que c'est un livre parfait sur Israël, et en même temps, un livre très drôle et très critique sur Israël.
Olivia ?
Moi, j'ai adoré, mais j'adore cette romancière. Je trouve que c'est un livre d'une densité, d'une finesse, d'un humour absolument exceptionnel. Elle arrive à brasser un nombre de situations avec une dextérité, que ce soit une scène érotique, que
oui,
ce soit...
Il y a aussi y a les liens familiaux, voilà. La sexualité... Ouais.
Elle raconte
les
tout
enfants,
en même temps.
Les enfants sont extraordinaires. Oui, dans ce livre,
l'amour déclinant pour son mari, l'amour pour ses enfants, les rencontres avec sa mère qui perd la tête, qui pense qu'elle est une américaine et elle rentre dans son jeu pour essayer...
Ah, la
avec scène avec la mère
qui sort
est extraordinaire.
Là aussi, il y a vraiment, un majordome.
Mais Arnaud a raison, c'est assez série télé dans le rythme. Hein.
Ah oui.
Oui, mais enfin, on pourrait dire aussi que c'est assez roman du 19e traditionnel. Parce que c'est très très bien construit. Et puis, c'est une femme qui est prisonnière de l'histoire de son pays. Parce qu'elle a perdu son père dans la guerre du Kippour quand elle était enfant. Parce qu'elle a perdu sa jeunesse dans cet attentat qui, 10 ans après, lui fait encore mal. Et parce qu'à chaque fois qu'elle voit une ambulance dans la rue, elle pense que c'est son fils aîné qui est mort et puis qu'il va partir pour faire son service militaire. C'est un livre qui est très cash. Moi, je trouve qu'elle a, elle a une manière d'écrire qui est très franche. Et il y a quelque chose d'universel. Moi, je ressens ce que raconte cette femme alors que je n'ai rien à voir avec elle. Elle, au-delà d'Israël, elle arrive à faire un grand roman universel.
Je suis pas sûr que le titre soit le bon titre.
C'est ce que je me suis dit aussi. Parce que vraiment, douleur, il faut y aller. On n'a pas franchement envie d'ouvrir. Ça fait 500 pages.
Là, c'est cash aussi.
Mais honnêtement.
Enfin, quand j'ai annoncé, je vous ai annoncé qu'il fallait lire Douleur, toi.
Oui, c'est vrai. Non, je pensais pas que ça allait être aussi marrant.
Merci pour la pratique.
Allez-y, parce que c'est une très, très grande romancière.
Michel.
C'est un chef-d'œuvre, j'ai trouvé ce livre magnifique. C'est un livre en eau profonde, très fin, très subtil, très intelligent, et qui arrive à faire de la psychologie sans faire de la psychologie. C'est ce que j'aime beaucoup dans les romans, c'est quand ils arrivent à ce stade.
Nelly.
Alors moi, j'ai pas trouvé que ça ressemblait à une série télé. J'ai pas trouvé que c'était si rythmé que ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pourrais être très élogieux sur ce livre, notamment sur la finesse de la déflagration d'avoir été victime d'un attentat et comment ça se répercute sur toute une famille pendant 10 ans. Parce que il y a la fille qui a beaucoup de problèmes aussi, et on sent que c'est lié au fait que sa mère a pas pu s'occuper d'elle quand elle était petite parce que tout simplement elle était allongée tout le temps, qu'elle était gavée de d'antidouleurs et qu'elle pouvait pas s'occuper de ses enfants. Et cette déflagration comme ça sur des années et comment ça forme aussi des jeunes gens dans un pays, c'est très très fort. Mais je trouve qu'il y a quand même des longueurs, j'ai trouvé qu'il y avait des répétitions, je trouve qu'il aurait fallu resserrer un peu le texte. Bon, il y a un autre truc quand même qui me gêne, puisqu'on sait, ça a été quand même très médiatisé, sans cela dit qu'elle en parle, Zerouya Chalev, qu'elle a subi cet attentat, un attentat en 2004. Je trouve que commencer en mettant je ne sais pas ce que vous en pensez, mais commencer en mettant, il y a une note à l'adresse du lecteur en disant tout est de la fiction, toute ressemblance avec la réalité serait des personnages existants serait fortuit. Moi, ça me pose un peu un problème.
Mais non, comme une manière de me dire.
Non,
que
mais moi,
ça me pose
un problème. Oui, ben peut-être que j'aurais préféré qu'elle fasse un témoignage, même si le roman est très très beau. Je pense qu'il me manque aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il me manque aujourd'hui. Quelqu'un.
Ah, elle dit
non,
fait un
bah
roman,
écoute, tu peux être romancière et écrire un autre roman qui soit un peu plus proche de toi et sans avoir cette note d'avertissement. Je trouve moi, ça me gâche quand même quelque chose. Si c'est un roman, je pense que ça suffit. Alors, si c'est un roman, ça suffit. On ne met pas d'avertissement. Je trouve que c'est une façon de dire qu'on ne parle jamais de cet attentat. Alors je suis dit le livre est quand même là-dessus. Enfin, il y a un truc moi je trouve cette note de en entrée, je la trouve pas honnête. Voilà.
Je pense que c'est peut-être pour protéger sa vie conjugale parce que c'est un grand roman d'amour. Est-ce que les retrouvailles avec cet amant qu'elle a eu, qui l'a quitté de la manière la plus cruelle possible, va réparer
j'arrive pas à y croire, tu vois, que 30 ans après, ils retombent dans les bras l'un l'autre, tout de suite,
C'est parce que tu n'es pas...
Non, je suis une grande amoureuse.
T'es trop méfiante.
Et Cécile Guibert, elle retrouve un
douleur.
Petit 30 ans après, là, ça
t'a pas gêné,
quoi.
Hein.
Ouais, ça te gêne
non, mais
pas,
attends, ils font pas l'amour tout de suite, enfin, on sait pas d'ailleurs s'il va se passer quelque chose.
Pas tout de suite, on sait pas.
Il faut consommer, c'est ça.
Vous êtes des grands sauvages.
Il faut lire, on est des grands sauvages, oui. Douleur, c'est Zerouya Chalev.
Magnifique.
Dis n'importe quoi, on est des grands sauveurs. et c'est chez Gallimard. Allez, un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Nelly, justement.
Ah, alors moi, à propos d'amour, Arnaud, je suis tombée folle amoureuse, mais folle amoureuse. Et je veux l'épouser. Et il est chinois, il a 96 ans.
Ah, Rao Pingru.
Il se porte comme un charme.
On va en parler au masque. Je vais l'inscrire.
Ah, mais oui, inscris-le. C'est Rao Pingru. C'est absolument magnifique. Pour moi, c'est la vraie révélation
littéraire
de la rentrée.
Mais il faudrait le voir, celui, parce qu'il faut en parler, mais il faut le voir.
Il faut le voir, parce que c'est un roman
c'est un premier roman graphique où
c'est un chinois
qui raconte par le prisme d'une histoire d'amour toute l'histoire de la Chine du XXe siècle.
Après la mort de sa femme, il s'est mis pour la première fois à écrire et à dessiner.
Il a été
et il raconte toute sa vie.
Il a été séparé d'elle pendant 22 ans parce qu'il a été en camp de rééducation parce qu'il avait des origines bourgeoises qui faisaient tache en Chine populaire. Il a vécu avant quand même la guerre avec le Japon, où il a été militaire, il a vu tous ses amis mourir autour de lui, et c'est par le prisme d'une histoire d'amour avec sa femme qui s'est retrouvée seule avec leurs 5 enfants dans la misère, parce que finalement on a très très peu de comment dire, cet écho de la Chine de Mao où finalement le peuple il creve à la dalle quoi. Et c'est un livre, les images sont sublimes,
les dessins sont merveilleux, et il est tellement élégant ce vieil homme le passage, les 22 années en camp, oui. Il n'en parle pas.
Non, très peu, oui. C'est pas sur le camp.
Quelques lignes,
oui,
hein. Oui, c'est pas incroyable. Sur le camp, oui. C'est Rao Pingru et le titre, c'est
Notre histoire.
Notre histoire, et c'est au seuil. Le conseil d'Olivia.
Moi, j'ai beaucoup aimé le nouveau livre d'Anne Wiazemski qui s'appelle Un saint homme. Je trouve qu'elle continue sa série de récits romanesques ou de romans autobiographiques. Et là, elle se souvient d'un prêtre qui était son professeur de latin et de français lorsqu'elle était petite à Caracas et qui est la première personne qui l'a encouragée à écrire. Et dans les livres précédents, on avait découvert comment elle était devenue actrice et là, on découvre comment elle est devenue romancière. Et c'est un portrait de cet homme très beau et c'est un portrait, je trouve, d'Anne Wiazemski absolument exquis.
Le conseil d'Arnaud.
Un des plus beaux livres que j'ai lus dans cette rentrée, Olivier en a parlé tout à l'heure, c'est Naître personne de Gaëlle Obiegli. Donc pour gagner un peu d'argent, elle est écrivain, mais pour gagner un peu d'argent, elle est hôtesse d'accueil et un jour, elle est enfermée dans sa boîte le vendredi soir, elle est aux toilettes, il ferme les locaux et elle se retrouve bloquée pendant tout le week-end. Elle a juste un bic
et du... C'est ballot, quand même.
Oui, c'est ballot. Et elle a juste un bic et du papier toilette. Et donc, le livre qu'on va lire, c'est ce qu'elle va écrire pendant tout le week-end d'enfermement. Et c'est tous ses souvenirs qui reviennent. C'est un roman autobiographique qui revient dans le désordre. Elle est petite fille, elle est grande. Il y a tout, l'amour, le travail, l'engagement politique. Elle parle de tout. Ça fait 350 pages. Et c'est parfois, c'est extrêmement drôle par moments. C'est extrêmement touchant à d'autres. Oui. Et surtout, il y a un style. Alors là, pour moi, c'est toujours ce mot-là de style que je n'aime pas. Mais là, il y a quelque chose d'électrique dans l'écriture qui est absolument magnifique.
Je conseille, en fait, aux écrivains qui ont une panne d'aspiration de se faire enfermer dans les toilettes.
C'est pas si mal, ouais, finalement.
Mon conseil, c'est Pièces détachées, c'est au pluriel. C'est Colette Fellous chez Gallimard, un livre où, en 2015, après l'attentat de Sousse, elle a dit adieu à sa Tunisie natale, à sa maison de Sidi Bou Saïd, et à son ami qui était l'écrivain, Alain Nadeau, peu connu, qui est mort en mer Égée après avoir décidé de ne plus écrire. Alain Nadeau,
je l'ai connu un peu.
Je t'apprends qu'il est mort, mais il est mort il y a plusieurs années. Okay. Et effectivement, il avait fait un petit livre pour dire qu'il ne voulait plus écrire parce qu'il était très déçu par la société littéraire. Oui. Et voilà, il est mort en pleine mer. Alors qu'il naviguait. Et Pièces détachées, c'est aussi, je vous le disais, l'adieu à la Tunisie de Colette Fellous. C'est chez Gallimard. Le conseil de Michel.
Je vous propose, mais bon,
propose-moi.
C'est un recueil d'études littéraires de l'écrivain Sebald, Amère Patrie, à propos de la littérature autrichienne. C'est un très très beau recueil à propos d'auteurs qui sont connus ou moins connus, Hermann Broch, Josef Roth ou Peter Altenberg, qui est peut-être moins connu que les deux premiers. Et c'est Sebald, donc c'est un merveilleux écrivain. Et voilà,
immense écrivain.
L'occasion de le découvrir,
et c'est
si
chez...
on n'a pas lu, c'est Actes Sud.
Actes Sud. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Olivia de Lamberterie, Nelly Capriélian, Michel Crépu et Arnaud Vivian pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Sacha Guitry et la technique, il y avait Olivier Dupré, Clotilde Thomas, ainsi que Fabien Capel. La réalisation était signée Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 16 février. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions. L'une que vous attendez, qui est consacrée au 27e prix des auditeurs du Masque et la Plume, et l'autre à l'actualité du théâtre. Dans une semaine, on fête donc vos résultats en compagnie du lauréat. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.